de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de pierres et de notes. La notion d'étude pour piano évoque au premier abord le souvenir d'études fastidieux, de traits rabâchés, dénués de tout intérêt musical. À ce degré zéro de l'écriture, l'étude n'est souvent que l'exploitation systématique d'une même figure pianistique correspondant à un problème de technique instrumentale à résoudre. Traits conjoints ou brisés, arpèges, notes répétées, doubles notes pour s'exercer, Rachmaninov lui-même faisait son pain quotidien des exercices de Hanon et de l'opus 740 de Czerny, l'art de délier les doigts. Pourtant, très tôt, les grands pianistes, compositeurs de la période romantique comme Chopin et Liszt ont donné à ce genre ses lettres de noblesse. Avec eux, l'étude dépasse largement son propos pédagogique initial pour devenir une pièce de salon ou de concert. Opportunité idéale de la virtuosité, l'étude n'est cependant pas, chez ces compositeurs, une simple accumulation de difficultés ou de vaines prouesses. Elle est devenue le creuset des recherches les plus avancées du langage pianistique. En elle s'opère concurremment au progrès de la facture instrumentale une extension sans précédent des capacités polyphoniques, voire orchestrales de l'instrument et de ses possibilités sonores et expressives. Le genre possède alors une double nature, laboratoire de techniques pianistiques éventuellement à visée pédagogique, mais aussi composition d'un intérêt musical accompli, à ces deux composantes s'équilibrant en proportions variables. Nous allons entendre cette étude grave, opus 33, composée en 1911, en do dièse mineur, par Sergueï Rachmaninov. Il s'agit ici de l'interprétation de Nikolaï Lunginsky qui joue sur Steinway.
Thank you.
Cette dernière étude en do dièse mineur évoque un morceau terrifiant à jouer en termes de puissance émotionnelle, de force physique et de mouvement. Et on y voit ici un écho des œuvres orchestrales de Rachmaninov. Elle, effectivement, rappelle l'opéra Francesca de Rimini de Riccardo Zandonai. Nous allons découvrir une autre étude qui, elle, est en do mineur, opus 39 de Sergueï Rachmaninov, qui a été composée, évidemment, un peu plus tard, en 1916-1917. À ce propos, l'interprète Nicolas Lunganski nous dit de cette étude qu'elle présente à l'auditeur des éléments sombres qui sortent de l'abîme en de terribles climax pour y disparaître à nouveau. Son caractère sinistre est accentué dans la section centrale avant la reprise lorsque, sur le pas mesuré d'une basse chromatique descendante, la scène semble être envahie par des démons qui surgissent un bref instant avant de plonger à nouveau dans le néant. Avec les études tableaux, Rachmaninov s'inscrit dans une lignée romantique à l'instar de Chopin. Il a composé auparavant des préludes où s'exprime son inspiration la plus personnelle, dans une quête de concentration de la pensée musicale, inscrite dans un cadre concis. Cette recherche se poursuit avec les études opus 33 et 39 qui manifestent une maîtrise accomplie et les extraordinaires moyens pianistiques de Rachmaninov sont mis au service d'une expression de sentiments complexes qui reflète sa riche personnalité. Le titre, donc, laisse entendre une inspiration picturale ou au du moins visuelle. Nicolas Lunganski propose la traduction d'études picturales. Cependant, contrairement à Liszt, qui a volontiers donné des titres évocateurs à ses études d'exécution transcendantale, Rachmaninov n'a pas souhaité divulguer les origines de son inspiration. Répondant en 1930 à une sollicitation de Respighi qui souhaitait orchestrer 5 de ses études, il dévoila alors quelques pistes qui, souvent, n'éclairent pas vraiment le propos. Comment réduire, par exemple, l'extraordinaire étude opus 39 numéro 6 d'une atmosphère fantastique et cauchemardesque à l'évocation convenue du loup ou du petit chaperon rouge. Les autres études commentées par Rachmaninov sont l'opus 39 numéro 2, La mer et les mouettes. Ainsi, les études opus 33 et 39 comportent de sérieuses difficultés techniques, mais elles dépassent de beaucoup l'intérêt pédagogique d'une série d'exercices. L'écriture adopte rarement un parti pris obligé, selon le mot de Debussy, c'est-à-dire des figurations constantes et systématiques d'un bout à l'autre de la pièce, dans le but de faire travailler telle ou telle difficulté. Rachmaninov préfère faire évoluer librement son écriture en transformations successives de manière à approfondir une palette expressive complexe et souvent énigmatique, faisant émerger en cours de route des détails et des contre-champs, des saillies compléments et inattendus et parfois contradictoires avec l'impression initiale. Les mains de Rachmaninov, réputées pour leur grandeur exceptionnelle, lui inspirent des textures pianistiques d'une complexité inédite qui font sonner le piano de manière toute personnelle. Le langage harmonique, tout en restant résolument ancré dans les références tonales, est aussi d'une grande richesse, pratiquant la libre association d'accords, les colorations modales, les brouillages chromatiques, les résonances mystérieuses qui évoquent la sonorité des cloches. Et dans ses études, l'effusion mélodique, le lyrisme généreux propre à Rachmaninov apparaissent extrêmement maîtrisés, comme filtrés dans les méandres d'une inspiration labyrinthique et secrète. Ainsi, nous venons de découvrir ce qu'est une étude, notamment celle de Rachmaninov. À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
C'était De Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.